Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour Culture Média, au menu tous les médias et toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, on va parler de rap, mais également de littérature avec Nicolas Carreau qui a lu pour nous le nouveau roman de Clara Dupont-Mono qui vient de recevoir le prix Femina. Il vaut quoi? Il nous dira. Notre info média avec une figure qui fait et qui a fait beaucoup pour la cause féministe, justement, Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté après avoir été secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Elle vient de sortir un podcast, une masterclass sur le thème « Oser l'engagement ». On en parlera et on la fera évidemment réagir à l'actualité, ce qu'elle ne manque jamais de faire. Justement, on est au cœur de notre sujet médiatique. Puis nos invités, Clément Cotentin, vous allez savoir qui c'est, pour un documentaire unique. Montre jamais ça à personne, documentaire unique, car il est le petit frère du rappeur Orelsan et il le filme depuis plus de 20 ans, persuadé qu'un jour il serait une star. Il était seul, mais il n'avait pas tort. C'est le plus gros démarrage d'un doc sur Amazon Prime Video. Nous serons également avec sa productrice Justine Planchon de Media One. Enfin, la chanteuse Nolwenn Leroy pour annoncer son 8e album La Cavale, réalisé par Benjamin Biolay. Elle sera également vendredi au casting du nouvel épisode de Capitaine Marlowe sur France 2. Il y aura son portrait d'avant la célébrité, le portrait pré-fame avec Lisa Marie Marquez. Quel programme! Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour, mais quel programme comme tous les jours, non?
Voilà, et je vous ai entendu pourrir Anissa Haddadi parce que le week-end serait mauvais.
Oui, la pauvre, c'est pas de sa faute, mais bon, c'est elle qui l'annonce.
Plus sérieusement, au sommaire de votre journal des médias, Louise.
On va consacrer une grande partie du journal à l'événement télévisuel du jour, le lancement de la série Germinal sur France 2, que vous pourrez peut-être regarder ce week-end, comme il va faire un temps pourri. Ambitieuse et spectaculaire adaptation de Zola. Et puis les dernières actus médias, le changement de nom du CSA, le nouveau Prime de Daphné Burki et un nouveau site d'investigation.
Mais d'abord, évidemment, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont regardé Koh-Lanta, la légende, 4 220 000 téléspectateurs. Koh-Lanta très en forme hier soir. C'est la meilleure audience depuis 4 semaines, 5 semaines, presque 22% de part d'audience. Deuxième, France 3 avec le téléfilm Mauvaise Graine, 3 670 000 téléspectateurs. Bonne audience là aussi, 17% de part d'audience. Et puis troisième, M6 qui proposait le film d'action Raid 2, la suite du film Raid 1.
On apprend des trucs ici.
Non, Raid tout court, diffusé la semaine dernière sur M6. Et le score est un peu meilleur que la semaine dernière. 2 350 000 téléspectateurs, 11,5% de part d'audience.
Culture Média.
Le journal des médias qui débute avec un événement ce soir sur France 2, le lancement de la série Germinal.
L'adaptation du roman d'Émile Zola, celui où un jeune homme, Étienne Lantier, vient d'être embauché dans les mines de Montsou dans le Nord. Face aux conditions de travail désastreuses des ouvriers, il les pousse alors à faire grève. En parallèle, il tombe amoureux de la fille des Maheu, la famille qu'il héberge. Bande annonce de la série.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne de plus ? On donne déjà tout à la mine. Nos vies, nos corps, nos enfants. On s'en sort pas.
On est allé trop loin. On leur fait courber les chines, puis on leur en rajoute encore et encore. À force, la grève va éclater, c'est couru.
Une grève.
Jamais je ne céderai au chantage. Vous m'entendez? Jamais.
Germinal reparti avec le prix du public au festival Cérémania. Il faut dire que la série est ambitieuse et spectaculaire. Une coproduction internationale à gros budget pour une série française. 2 millions d'euros par épisode. Il y en a 6 en tout. Avec un casting haut de gamme. Alix Poisson, Guillaume de Tonquédec, Thierry Godard, Samy Boisgila, entre autres. Et une équipe de scénaristes menée par Julien Litli, qui est co-auteur de la série Hippocrate, entre autres. Des scénaristes qui ont eu la lourde tâche d'adapter le chef-d'œuvre de Zola. Un défi passionnant, m'a confié Julien Litli, qui est là et il a accepté ce défi, notamment pour la résonance du roman avec notre époque.
Au moment où on a commencé à l'écrire, on était dans un contexte social extrêmement houleux avec le mouvement des Gilets jaunes, avec les grèves contre la réforme des retraites. Se reposait de manière très aiguë la question de l'activisme politique, du mouvement collectif, du mouvement social. Donc voilà, je me suis dit, tiens, adapter Germinal aujourd'hui, pour en faire en même temps un grand divertissement, une épopée, voilà, un récit d'aventure passionnant, mais aussi peut-être interroger le spectateur sur des résonances entre l'époque de la révolution industrielle et notre époque contemporaine.
Julien, Lilti qui a relu, lu, puis relu Germinal.
Ouais, le 1 puis le 2.
Mais oui, c'est ça. Vous êtes taquin ce matin. Des notes préparatoires de Zola aussi, des textes d'historiens sur l'époque. Il s'est aussi intéressé aux adaptations déjà réalisées que des films. C'est la première fois que le roman devient une série et il trouve que ça s'y prête totalement et même mieux.
La série permet d'une part de restituer toute cette ampleur narrative et puis aussi parfois cette ampleur en termes de spectacle. Dans Germinal, il y a une dimension presque de film catastrophe. Ça permet aussi de rester dans un récit choral et de ne pas être obligé de se centrer sur un héros au détriment des autres personnages. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans Germinal. Évidemment, on a respecté cette ligne classique d'Étienne Lantier, jeune héros qui va finalement mener l'action. Mais voilà, dans la série comme dans le roman, il y a énormément d'autres personnages qui sont très importants. Chaque personnage a du blanc et du noir en lui, il est en nuances de gris, et il a des raisons d'agir comme il agit, même quand il agit de manière négative ou pernicieuse.
Adaptation fidèle à l'esprit du roman, avec quelques libertés, plus de place notamment pour les personnages féminins, et puis une vraie écriture de série avec du suspense en fin d'épisode, du cliffhanger comme on dit dans le jargon. C'est à découvrir ce soir sur France 2 à 21h05 ou sur Salto, c'est déjà disponible.
Et dans l'actualité média également, la nouvelle émission de divertissement de Daphné Burki.
La fête de la liberté, ce sera une soirée enregistrée au Bataclan avec de nombreux artistes d'horizons divers, d'après Le Parisien, comme Joey Starr, Gauthier Capuçon, ouais, grand écart, ouais. Ahmed Silla, Iseult. Un prime time sur France 2, inspiré de l'album Jour de gloire. C'était un disque sorti l'an dernier à l'initiative d'un prof de musique des Hauts-de-Seine, Sébastien Boudria. En fait, il avait réuni des artistes pour lire des textes qui défendent des valeurs comme l'éducation et le droit des femmes notamment. Ces mêmes valeurs seront donc mises en avant lors de cette nouvelle émission avec des textes de Joséphine Baker, Albert Camus, Olympe de Gouges, Jean Jaurès et Victor Hugo, et des séquences de danse, de chant, toujours d'après Le Parisien.
C'est désormais officiel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel va changer de nom.
Oui, fini le CSA, à partir de 2022, ce sera l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Alors pourquoi ce changement de nom? Parce que le CSA va fusionner avec Hadopi, l'autorité chargée de la lutte contre le piratage. Une fusion prévue par la loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles et à l'ère numérique, qui vient d'être publiée au Journal officiel hier. Deuxième question, pourquoi cette fusion? Eh bien parce qu'Hadopi n'est plus du tout adapté à la réalité du piratage. Alors l'ARCOM, au-delà de reprendre l'émission du CSA et d'Hadopi, ira plus loin, notamment sur les problématiques de streaming illicite, comme celui d'événements sportifs en très forte progression. Et dans un communiqué, le CSA insiste sur ses compétences élargies de l'ARCOM, chargées de moderniser la régulation, d'être davantage en prise avec les enjeux numériques, la lutte contre les infox, les contenus haineux, et puis la régulation des plateformes de vidéos par abonnement. La naissance de l'ARCOM, ce sera donc le 1er janvier 2022.
Et puis le groupe Les Échos, Le Parisien, poursuit ses acquisitions.
Il en a réalisé une douzaine en 3 ans. Il vient d'annoncer être entré en négociation exclusive pour acquérir l'intégralité de One Square. C'est une société éditrice du site du même nom et de la lettre de l'expansion. La signature aura lieu au plus tard le 31 décembre, d'après l'AFP.
Et on termine avec la création d'un nouveau site d'investigation.
Off Investigation a lancé par Jean-Baptiste Rivoire, habitué des enquêtes, ancien rédacteur en chef adjoint de Spécial Investigation sur Canal+, notamment. Il raconte son projet à Télérama, un site d'investigation indépendant sur lequel on pourra trouver des enquêtes filmées. Et c'est ce qui manquait, d'après lui, ça manquait sur Internet, mais aussi à la télévision, où l'investigation se fait de plus en plus rare. Off Investigation lance un crowdfunding le 11 novembre pour pouvoir se financer. Objectif fixé, 180 000 euros au moins. La première enquête prévue par le site, c'est une série documentaire consacrée à Emmanuel Macron et ses parts d'ombre. Il raconte à Télérama l'avoir d'abord proposé à plusieurs chaînes de télé et plateformes, tout en refusé, en invoquant différentes raisons. Alors il a décidé de la faire par ses propres moyens et de créer ce site pour pouvoir la diffuser. Le premier épisode du documentaire sera d'abord disponible sur le site Blast de Denis Robert le 1er novembre. Et pour voir la suite, il faudra donc participer à ce crowdfunding pour financer le site.
Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes les infos sont à retrouver. Pas de crowdfunding, c'est gratuit. La newsletter média, c'est sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, sur Europe, notre info média du jour avec la ministre déléguée Marlène Schiappa. Elle sort un podcast sur l'engagement dans lequel elle affirme savoir attirer les médias. On peut lui faire confiance. On va parler de ce podcast, mais également de ses relations passionnelles parfois avec les médias. Tous les médias, à tout de suite. 9h.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
L'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée en 2017 a été le symbole du dégagisme et de l'arrivée d'une nouvelle génération au pouvoir. Gouvernement, d'illustres inconnus pour le grand public prennent les manettes du pouvoir. Certains vont rester inconnus, d'autres non. C'est le cas de Marlène Schiappa, occupation tout azimut de l'espace médiatique, du tweet en plateau de télé en passant par TikTok. L'ex-secrétaire d'État et aujourd'hui ministre délégué a été l'une des révélations de ce quinquennat, l'une des plus remarquées médiatiquement, l'une des plus critiquées aussi. Ça va souvent avec un activisme médiatique qu'elle met au service de ses engagements. Et l'engagement, c'est justement l'objet d'un podcast disponible sur Magellan depuis hier, podcast dans lequel la ministre fait sa masterclass. Elle est avec nous. Bonjour Marlène Schiappa.
Bonjour.
Merci d'être en direct.
Merci
sur Europe 1. Vous êtes ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté. Vous sortez donc ce podcast produit par Magellan, disponible depuis hier, Oser l'engagement. C'est un format inédit pour un membre du gouvernement ?
Absolument, mais l'idée c'était de faire un podcast qui a un format long. Et donc Magellan, qui est une boîte qui fait de la production de podcasts et qui est dirigée par Mathieu Gallet, a décidé de faire des masterclass. Vous avez Inès de la Fressange ou Maurice Lévy, le patron de Publicis, qui font des choses sur la création, etc. Et nous, ensemble, on a choisi de faire quelque chose sur l'engagement. Donc vous avez 6 épisodes. Et l'idée, c'est de dire que j'ai été militante, bénévole, présidente d'association, élue locale, ministre. Et donc j'échange, ou je donne en tout cas, je fais part de mon expérience pour des personnes qui souhaiteraient s'engager, défendre des causes qui leur tiennent à cœur et qui ne savent pas toujours comment s'y prendre.
C'est eux qui sont venus vous chercher, vous avez dit oui tout de suite ?
On a échangé et l'idée c'était de... Oui, on s'est dit que c'était intéressant de partager justement ce qui est le fil rouge en fait de ma trajectoire, qui est la question de l'engagement, défendre des valeurs, soit l'égalité femmes-hommes, la question de la laïcité, la situation des femmes, l'intégration des réfugiés. Voilà, tout ça, ce sont des causes. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'engager, de moins en moins de gens qui votent d'ailleurs, c'est un paradoxe. En France, il y a beaucoup de pétitions, de manifestations, de causes et élection après élection, les gens votent de moins en moins. Et donc l'idée de ce podcast, c'est aussi ça, c'est aussi dire comment on passe d'un engagement théorique à un engagement et est-ce que l'engagement politique vaut la peine ?
Avant qu'on parle du fond, une question média, on parle de communication ici dans cette émission beaucoup. Est-ce que vous avez demandé l'autorisation pour y participer ? Est-ce que vous avez prévenu quelqu'un à Matignon ou à l'Élysée ?
Moi, je préviens toujours de ce que je fais. Et pour être très honnête, j'ai une phrase qui m'est propre, qui est « sauf no go ». C'est-à-dire, je vais faire ça, sauf no go.
Donc, si on ne vous dit rien, vous y allez ?
Sauf no go. S'il n'y a pas de no go, je fais.
Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Vous dites dans ce podcast que vous savez attirer les médias. Vous l'avez toujours su. Ou est-ce que c'est un domaine dans lequel vous avez progressé et vous avez appris chemin faisant ?
Non, honnêtement, j'étais la première quand j'ai monté mon association Maman Travail et mon blog, ça a tout de suite cartonné parce qu'il y a eu beaucoup de femmes qui sont venues et parce que les médias se sont intéressés tout de suite à ce sujet.
Je souris parce que je pense à votre première association où le nom était tellement complexe, vous passiez plus de temps à expliquer le nom que le travail de votre association.
Exactement, c'est ce que je raconte dans le podcast, qu'on apprend de ses erreurs. Moi, j'avais monté un site qui s'appelait lespassionnariats.com. Alors, les gens entendaient à la radio, personne ne savait s'il y avait deux S, deux R, un I. Où est-ce qu'on trouvait ça ? Qu'est-ce que ça voulait dire ? De quoi ça parlait ? Et je me suis dit qu'après, j'allais faire quelque chose de percutant. Et Maman Travail, on comprend tout de suite de quoi ça parle.
C'est une maman.
Ça a expliqué aussi le succès, je pense, de l'association.
Exactement. C'est une maman et elle travaille. C'est exactement comme Culture Média. De quoi ça parle ?
C'est
de
ça.
Culture
et
de médias.
Voilà.
C'est pas la peine de chercher plus loin. Basique, on parlera d'Orelsan justement tout à l'heure. C'était pour faire le lien avec ce qui va suivre. Votre podcast s'appelle Oser l'engagement. Mais à vous écouter, l'engagement politique est plus compliqué à assumer que l'engagement associatif.
Oui.
Vous dites même que la politique est impure pour les gens. Mais alors pourquoi vous continuez ?
Oh, pour plein de choses. D'abord, oui, sur le constat, c'est clivant. Voilà ce mot qu'on utilise souvent. La politique, c'est clivant par nature. Moi, je faisais des choses quand j'étais à la tête de mon association. J'étais invitée dans les médias. Tout le monde me disait que c'était formidable ce que je faisais. Je faisais le trésor d'Élise Lucet. Élise Lucet me disait « Mais bravo, quel bel engagement. Vous êtes tellement nature, c'est génial, etc. » J'ai fait la même chose, mais en ayant l'étiquette « membre du gouvernement », l'étiquette « politique ». Et là, c'est devenu « oulala, c'est politique, mais on est contre ». Et en gros, les politiques, il faut les critiquer. C'est-à-dire tout le monde a tellement peur d'être complaisant vis-à-vis des responsables politiques qu'il y a une espèce d'agressivité d'office. Parce que vous avez l'étiquette politique et spécialement membre du gouvernement. Et moi, je continue parce qu'on a justement le pouvoir d'agir, de faire des lois, de changer les choses, d'aider des gens.
Vous avez une manière assez particulière de travailler et vous l'explicitez, c'est presque du métalangage. L'épisode 4 de votre podcast que j'ai écouté s'intitule « Prendre la parole ». Vous expliquez que vous avez appris justement à prendre la parole en interview et que la règle, c'est une interview, un message. S'il y a trop de messages, dites-vous, c'est brouillé, on ne comprend pas.
Ouais.
Donc, quel était le message que vous vouliez faire passer en venant ici, dans ce studio ?
Oser l'engagement, tout simplement.
Alors vous dites, j'apprends à faire fi des questions et à passer mon message. Vous n'avez pas de considération pour les journalistes en face de vous ?
Désolée. Non, j'ai énormément de considération.
Soyez franche. Alors, je vais vous dire ce que vous dites. Vous dites, écoutez, c'est le fameux, vous êtes venu avec vos questions et moi je suis venu avec mes réponses.
Ouais.
Et vous dites, il ne faut pas écouter les questions, on répond ce qu'on a envie de répondre.
Ce n'est pas qu'il ne faut pas écouter les questions, c'est que parfois, et je vais vous le dire très honnêtement, d'abord, moi j'ai été journaliste et la liberté de la presse est pour moi un fondement de la démocratie. Ouais. Je respecte beaucoup les journalistes, au contraire. Mais parfois, on vient, par exemple, dans une matinale et on vient pour annoncer quelque chose, pour parler de notre action. Je viens dire, j'ai créé un bureau de la laïcité, c'est la première fois qu'il y a l'administration, etc. Et on ne m'interroge pas là-dessus et on va me poser des questions pour que je fasse des commentaires. Et moi, je ne veux pas venir faire des commentaires de l'actualité. Ce n'est pas mon travail, je ne suis pas éditorialiste, je suis ministre. Et je pense que ça contribue à la défiance vis-à-vis des responsables politiques de se dire, on va prendre les responsables politiques que quand ils ont des annonces à faire et on va les prendre pour faire des commentaires.
Ce podcast est construit comme une masterclass, mais vous n'hésitez pas à parler des ratés, des choses qui n'ont pas marché. Vous racontez que vous n'êtes pas un robot, qu'il vous est arrivé de pleurer à la sortie d'un conseil des ministres. Ouais. Pourquoi raconter cette anecdote, ce moment de faiblesse ?
D'abord parce que ça a été raconté dans la presse. La politique n'est pas un milieu bienveillant. Vous avez des collègues sympas qui vous tapent dans le dos, qui vous soutiennent, etc. Et moi, quand c'est arrivé, j'ai eu plein de ministres qui m'ont encouragé, Florence Parly, Christophe Castaner, Nicole Belloubet, beaucoup d'autres.
Il s'était passé quoi ?
Qui m'ont soutenu.
C'était quoi l'incident ?
C'était pas un incident en fait, c'est un trop-plein d'émotions à un moment parce que j'avais passé la matinée tôt avant le Conseil des ministres à recevoir des familles victimes de féminicides. Et en fait, quand vous êtes ministre et surtout quand vous êtes sur des sujets comme aujourd'hui le terrorisme, etc., et précédemment les féminicides, vous recevez souvent des gens endeuillés, des gens qui ont vécu des drames et parfois qui peuvent faire écho aussi à des choses que vous avez vécues vous-même ou des choses que vos amis ont vécues. Et j'avais vraiment... il y avait un conseil des ministres qui était un peu long, c'était une période de Covid et je n'ai pu parler que très brièvement des rencontres que j'avais faites et des actions qu'on menait. J'avais cette espèce de frustration. Et à la toute fin du conseil, vraiment à la fin, en pliant les trucs, je sens que j'ai les larmes aux yeux. Et je me dis, oh là là, j'arrive plus à me retenir en fait. Parce que je pense à tout ce que m'ont dit ces familles et ces femmes le matin et j'aurais tellement voulu pouvoir le relayer. Et ça n'a pas été possible sur ce moment-là. Je l'ai fait au conseil des ministres suivant, mais voilà, c'est juste un moment de faiblesse. Oui.
Et c'est d'autant plus ambivalent que dans le podcast, vous dites, je n'ai pas le droit de pleurer en regard de ce qu'ont vécu ces familles.
Pas devant les gens, en fait, quand on reçoit des gens qui ont reçu des drames. Moi, je me mords la langue un nombre incalculable de fois pour me dire que c'est leur drame. J'ai pas le droit d'avoir une manifestation. Voilà, je peux être que dans la résolution de leurs problèmes et pas dans l'émotion.
Je me rends compte qu'on n'a pas encore passé un seul extrait de votre podcast. On va se rattraper. On marque une pause. Marlène Schiappa avec nous dans Culture Média sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté, vous publiez depuis hier un podcast « Oser l'engagement » disponible sur Magellan. Donc depuis hier, dans l'épisode 2 de ce podcast, étant 6 épisodes et aussi une présentation, un propos préliminaire, vous expliquez qu'on vous a souvent vu comme une personnalité qui réagit trop souvent et à trop de choses. À l'époque, votre stratégie, c'était « ne rien laisser passer », dites-vous, on écoute.
Moi, personnellement, au début, je répondais à tout, tout le temps. Sur tous les sujets, je ne laissais rien passer, justement, y compris dans le privé. Et au bout d'un moment, je me suis dit « bon, je vais attendre de voir quels sont les combats qui doivent être menés, parce que c'est aussi épuisant, parce que vous ne pouvez pas endosser votre propre rôle, vous caricaturer vous-même sans cesse et être la personne qui intervient à chaque écart de langage, à chaque faute, etc. »
Est-ce que la situation a vraiment changé aujourd'hui, Marlène Schiappa ? Vous réagissez quand même beaucoup.
Bon, en fait, non. Mais je vais vous dire...
Non,
je vais vous dire, en fait, j'ai les qualités de mes défauts, les défauts de mes qualités. Vous l'avez dit en introduction. En fait, j'imprime, comme on dit dans le milieu politique. C'est-à-dire qu'il y a, j'ai des collègues qui vont essayer de parler et peut-être on ne va pas le retenir ni négativement ni positivement. Moi, dès que je dis quelque chose, je fais un tweet, ça fait une dépêche AFP.
Oui.
Et j'ai beau faire, par exemple, un tweet alors que je n'en ai pas fait autre que factuellement je suis ici, je suis en train de voter telle loi, etc. Si je fais un tweet de prise de position, c'est mon premier en 3 mois, il y a une dépêche et on se dit « Oh là là, encore un tweet de Marlène Schiappa ».
Alors c'est peut-être celui que j'ai relevé. Écoutez, c'était il y a une semaine, vous avez attendu 45 minutes seulement, c'est même pas une journée, c'est 45 minutes. Éric Zemmour se rend au salon de la sécurité intérieure Millipol. Il prend un fusil, il le pointe en direction des journalistes en riant. Il est 10h30, à 11h15, vous écrivez sur Twitter « Viser des journalistes avec une arme en leur disant reculer n'est pas drôle, c'est horrifiant, surtout après avoir sérieusement dit vouloir réduire le pouvoir des médias dans une démocratie. La liberté de la presse n'est pas une blague et ne doit jamais être menacée. » Éric Zemmour réplique « Vous traitez d'imbécile devant les caméras, Question, est-ce que vous n'auriez pas pu ne pas réagir
ce
jour-là et vous éviter une polémique ?
Si, mais en fait, dans la vie, comme je le dis dans le podcast, je ne cherche pas à plaire, je cherche à convaincre. Dans la vie, on peut ne rien mener, on peut ne rien faire, on peut ne rien dire et se dire « bof », à chaque fois qu'il se passe quelque chose.
Je
moi, ce n'est pas mon tempérament.
Je suis dans mon cœur de sujet, c'est dans votre podcast. Vous êtes à un moment donné
exactement.
À l'Assemblée nationale, il y a un orateur qui dit quelque chose qui vous fait bondir et le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, vous dit « calme-toi, ne dis rien,
ah non, il me
sois
dit pas,
stoïque ».
Non, il ne me dit pas « calme-toi ». En fait, c'est non, pas du tout.
J'ai oublié le terme
c'est
exact.
Le, ouais, ce n'est pas la même chose. En fait,
il vous dit « ne réagis pas ».
Je suis lynchée par les sénateurs et les sénatrices pour faire l'émission de Cyril Hanouna. Il y a des centaines de personnes, donc dans le Sénat, des centaines de sénateurs et de sénatrices qui me sifflent et qui me huent simultanément. C'est un peu Blandine dans la fosse au lion, quoi.
Parce que vous alliez faire l'émission ou parce que vous l'aviez fait ?
Parce que j'allais faire l'émission.
D'accord.
Et en gros, je leur dis, c'est du mépris de classe, mesdames et messieurs les sénateurs. Il n'y a pas une élite qui a le droit de s'occuper des affaires du pays. Et les gens qui regardent l'émission de Cyril Hanouna, qui seraient des sous-citoyens et qui n'auraient pas le droit de prendre part au grand débat et de parler politique. Donc oui, les membres du gouvernement doivent parler à tout le monde. Et donc, ils me huent, mais c'est pas grave, je sais que je vais être huée en disant ça, j'assume. Et en fait, le président du Sénat me fait une remarque en disant, lui, il me dit, faites dans la modération, mais pour faire une pique. Et donc, il sort un peu de son rôle. Et donc là, je me retourne, et là, effectivement, il y a Édouard Philippe qui met sa main, le Premier ministre, qui met sa main devant sa bouche et qui me dit, n'entre pas en débat avec le président du Sénat. Et il me regarde comme ça. Et donc, je lui fais signe de la tête, OK. Et donc, je reste calme et je réponds très calmement en disant, ne vous en déplaise, on ne résout pas les problèmes de 2019 avec des solutions de 1999. Et je pose mon micro et je m'en vais.
C'est pas tout à fait raconté comme ça dans le podcast, mais le fond, c'est exactement ça.
Ouais.
Je reviens sur votre réponse à la polémique Zemmour. Cette séquence est devenue très médiatique et elle est absolument passionnante parce qu'elle dit beaucoup de choses du débat actuel.
Ouais.
Faut-il ou non répondre à Éric Zemmour ? Certains ministres ont fait le choix de ne pas lui répondre. Et on vante certains le choix de lui répondre. On va entendre Philippe Corbet, c'est le chef du service politique de BFM, qui a pris la parole sur l'antenne pour exprimer son malaise.
Ouais. Je vais vous dire, on ne va pas faire la campagne comme ça. Ça ne va pas être possible. Parce que cette séquence vidéo de Éric Zemmour provoquant la presse en se mettant en scène avec une arme... Nous n'avions pas décidé de la diffuser, par exemple. Parce que nous considérons que c'était lui, un fait de campagne, il se met en scène. Il sait très bien ce que cette image, qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, va provoquer. Nous avons décidé de ne pas la diffuser. Mais à partir du moment où une ministre décide de rentrer dans ce débat, de pointer du doigt ce que dit Éric Zemmour, que Éric Zemmour répond à la ministre, que la ministre répond à la réponse d'Éric Zemmour, ça devient un fait politique et donc nous le traitons.
Qu'avez-vous à répondre à Philippe Corbet ?
D'abord, comme je suis attachée à la liberté de la presse, chacun fait ce qu'il veut. Et Philippe Corbet, comme tout autre journaliste, je n'ai pas à faire de commentaires sur ce que font les journalistes. Mmh. Ensuite, je veux dire que BFM passait Éric Zemmour toute la matinée, comme les autres chaînes de télévision. Il y a ce déplacement d'Éric Zemmour. Moi, je ne suis pas au déplacement avec Éric Zemmour. Si les chaînes d'info en continu n'étaient pas en train de diffuser le déplacement et ces images, je n'aurais pas su ce qui s'était passé. Comment je le sais ? Je le sais parce que c'est filmé et que c'est transmis et que c'est diffusé par des journalistes qui sont sur place, qui le diffusent sur les chaînes d'infos et ou qui le live-tweet, qui disent « Nous sommes là, Éric Zemmour a fait ci et ça ». Et donc moi, j'en déduis que, en fait, dans ce débat, vous avez le droit de parler...
Je me permets de vous interrompre parce que Philippe Corbet dit qu'il ne souhaitait pas diffuser cette séquence. Vous dites que BFM la diffusait, cette
non,
séquence.
Non, je dis que BFM a suivi Éric Zemmour dans ce salon et est passé en boucle Éric Zemmour depuis
oui,
le matin.
Oui, mais peut-être pas la séquence où il vise les journalistes avec une arme. Bon, c'est
ça,
celle-ci qui a créé
intéressant,
la polémique.
Ça, c'est un choix éditorial. Ça veut dire qu'éditorialement, on décide de ne pas diffuser le fait qu'il est filmé, mais il y a d'autres chaînes qui l'ont diffusé. LCI, Paul Larouturou, le journaliste qui est sur place et qui est visé, la diffuse. Anne-Saura Dubois fait le live tweet. C'est elle qui m'apprend les insultes d'Éric Zemmour à mon endroit en les live tweetant avec des capsules vidéo. Il y a d'autres journalistes qui sont présents, qui font aussi des capsules, qui les diffusent. Et en fait, pourquoi je réagis à cela ? Parce que c'est une position qui lie une position politique, c'est une réaction de fond. 48 heures avant, Éric Zemmour avait dit « Les médias et les journalistes ont trop de pouvoir, il faut les réduire. » Et viser avec un fusil en disant « ça rigole moins », je considérais que c'était une illustration de cette position politique de fond. Mais ce que j'allais vous dire, c'est qu'en gros, si on écoute Philippe Corbet, ça veut dire que Éric Zemmour, le sujet Éric Zemmour, vous avez le droit d'en parler si c'est pour le suivre partout dans ses déplacements. Vous avez le droit donc de relayer ce que lui souhaite qu'on relaye. Mais dès lors que vous critiquez Éric Zemmour, « oulala ! Oulala, vous critiquez Éric Zemmour, vous faites le jeu d'Éric Zemmour, faut pas critiquer, faut pas dire du mal d'Éric Zemmour. » En gros, on a donc le droit dans le débat public de relayer Éric Zemmour et de le filmer partout où il va et de le diffuser matin, midi et soir. On a le droit d'en dire du bien, mais dès lors qu'on en dit du mal, on nous dit qu'on fait le jeu d'Éric Zemmour. Ça veut dire quoi ? Tous les gens qui sont contre les positions d'Éric Zemmour doivent se taire et regarder le show, le Truman Show permanent d'Éric Zemmour. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et encore une fois, c'est la démocratie qu'on diffuse ce que dit Éric Zemmour. C'est le choix des journalistes. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais j'ai aussi le droit de dire que je suis en désaccord avec ses propos.
Et on a également vu cette pétition de journalistes qui ont choisi, qui sont plus de 150 de mémoire, qui ont choisi de ne plus parler de ce que fait Éric Zemmour. Vous parliez de Cyril Hanouna. Vous déclariez en avril dernier dans M, le magazine du Monde, à son propos, c'est lui qui devrait co-présenter le débat de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle parce qu'il a été un des premiers à prendre au sérieux le mouvement des Gilets jaunes. Fin de citation. Vous persistez, vous signez.
Alors, je me suis exprimée là-dessus, mais ça a été un tout petit peu raccourci. Et c'est génial dans la vie de ministre que vous allumez la radio, vous ouvrez le journal et vous apprenez ce que vous pensez.
Ici, vous avez le temps d'expliciter.
Je vais expliciter ce que j'avais dit à l'époque et ce que je confirme. Je pense qu'il faut renouveler le débat d'entre-deux-tours. C'est un vrai sujet médiatico-politique. Le débat d'entre-deux-tours tel qu'il existe depuis Valéry Giscard d'Estaing, je pense qu'il n'est plus adapté à la période qu'on vit avec les réseaux sociaux, la participation, les nouvelles formes d'émissions. Et d'ailleurs, les débats politiques dits classiques, comme ils se faisaient au XXe siècle, ils ne font pas d'audience. L'émission politique consacrée à Valérie Pécresse à 20h50 sur le service public a fait à peu près autant, peut-être moins d'audience que les pics d'audience qu'on a fait avec Cyril Hanouna dans notre émission, alors que je ne suis pas candidate à l'élection présidentielle.
Parce qu'en face, il y avait le débat Mélenchon-Zemmour. Mais revenons à Cyril Hanouna. Est-ce que vous persistez et signez? Est-ce que c'est lui qui devrait présenter le débat d'entre-deux-tours de la présidentielle?
Moi, je pense qu'on n'aura pas cette année, c'est une prédiction que je fais et en même temps un souhait, je pense qu'on n'aura pas un seul débat d'entre-deux-tours. Je pense qu'il faut des débats thématiques. Je pense que le débat d'entre-deux-tours, c'est un exercice qui est très réducteur. Et je pense qu'il est assez sain qu'il y ait des débats qui soient aussi des débats thématiques. Il y a des sujets dont on ne parle pas, par exemple, dans ces débats. L'égalité femmes-hommes. En 2017, on n'a pas parlé des questions d'égalité femmes-hommes. Moi, j'ai accompagné le candidat Emmanuel Macron dans tous les débats. À aucun moment, on a parlé d'égalité femmes-hommes.
Je garde cette idée en tête. On l'a vu avec le débat des Républicains. Il y a 4 débats qui seront organisés sur différentes chaînes.
Juste pour une primaire.
Et qui se termineront sur France 2, si je me souviens bien. Merci beaucoup, Marlène Schiappa.
Merci
je rappelle
vous.
Que vous êtes ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté. J'y suis arrivé.
Bravo.
Votre podcast Oser l'engagement. Merci pour ce bravo. Disponible sur Magellan depuis hier. Dans un instant, la série documentaire Ne montre jamais ça à personne. Vous l'avez vu? Série incroyable sur Orelsan, filmée
par son petit frère
pendant plus de 20 ans.
Incroyable.
C'est la série qui a le mieux démarré sur Amazon Prime Video. On sera également avec la productrice Justine Planchon, DG de Media One. A tout de suite.
Je suis plus proche de la blague de cul que de l'art de rue. Je fais ça pour les thunes. Dans mon album, il y aura des pages de...
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Clément Cotentin.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur, notamment pour Canal Plus Sport. On vous doit la série Invisible sur les gestes du sport, les mecs qui tirent des coups francs ou des choses comme ça. Vous avez également une licence de philo, un diplôme de philo, j'ai oublié lequel.
J'ai un Master 1, j'ai pas fini mon Master 2.
Faut jamais dire qu'on n'a pas fini. Votre actualité, c'est Montre jamais ça à personne. Série documentaire consacrée au rappeur Orelsan, c'est sur Amazon Prime Video. Orelsan, c'est votre grand frère Aurélien, il a 3 ans de plus que vous. Et quand vous étiez minot, depuis 98, vous le suiviez partout avec une caméra, persuadé qu'un jour il sera célèbre. Vous étiez bien le seul et vous avez eu raison contre tout et contre tous. Et ce qui est unique absolument dans cette série que j'ai vue, c'est qu'on voit les débuts au jour le jour. Alors par exemple, qu'il n'était que veilleur de nuit dans un hôtel. La série a connu le meilleur démarrage d'une série sur Amazon Prime Video en France. Elle est produite par Media One. Bonjour Justine Planchon.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de Media One Pro, vous êtes en charge des contenus et vous supervisez des émissions comme C'est à vous, mais également des docs. Clément Cotentin, vous avez quel âge quand vous prenez la première fois une caméra pour filmer votre grand-frère ?
J'ai toujours un peu filmé. En fait, dans une famille, il y a toujours quelqu'un qui filme. Et là, c'était moi. Je sais pas, l'envie de garder des souvenirs de tout.
C'était pas spécialement parce que vous disiez en admiration que votre grand frère allait devenir
après,
une star.
Et après, c'est arrivé.
C'est ça qui m'intéressait, la genèse.
Okay. Et après, au début des années 2000, quand il commence ses premiers concerts dans la banlieue de Caen, je me dis, lui et ses potes, il y a quelque chose qui va se passer. Et cette équipe est magique, ils se complètent trop, ils sont trop complémentaires, ça va marcher, il va se passer quelque chose. Quoi.
À ce moment-là, vous avez quel âge ?
J'ai 20 ans à peu près, quoi, par là.
Vous l'avez filmé ensuite pendant plus de 20 ans, combien d'heures de rush ?
Il y avait à peu près 2000 heures de rush, ouais, parmi lesquelles il fallait choisir, et ça c'était le plus gros travail. Quoi. On a mis 3 ans avec l'équipe de monteurs, avec Christophe Funstein, avec qui j'ai co-réalisé le doc, pour choisir les bonnes séquences qui feraient comprendre aux spectateurs ce que c'est de grandir petit à petit dans une carrière artistique.
Alors, 2000 heures de rush, documentaire en 6 épisodes. On va entendre un résumé du résumé. C'est une sélection de la bande-annonce.
Si je vous disais que normalement, c'était perdu d'avance.
Carton plein
1 pour Aurel San.
Basique.
Numéro 1 dans le rap, c'est pas mal. Pour un mec de province.
Si je vous disais que pour un mec un peu paumé, c'était impossible de remplir les plus grandes salles de France, de faire des centaines de millions de vues. Mais que moi, j'y ai cru dès le début. Si je vous disais que j'ai tout filmé et que personne n'a jamais vu mes images.
Je compte filmer jusqu'à ce qu'on fasse des trucs dans le rap. Arrête de filmer.
Aurel San, c'est mon grand frère. Et j'ai toujours été persuadé que lui et ses potes étaient destinés à faire de grandes choses. En les suivant, je voulais trouver le secret pour réaliser ses rêves. 20 ans plus tard, je suis prêt à le partager. Et tant pis si je lui désobéis.
Par contre, je te préviens tout de suite.
Oui.
Mais montre jamais ça à personne.
Bah oui.
Montre jamais ça à personne, dit Aurel San à son frère Clément. Mais Justine Planchon, justement, cette série, elle est montrée. Comment est-elle arrivée à vous, cette série?
Alors, il se trouve qu'il y a un producteur qui s'appelle Nolita qui avait produit le film d'Aurel, Comment c'est loin. Et ils sont venus me voir en disant, voilà, nous, on fait du cinéma et on aimerait pouvoir travailler avec toi sur un documentaire. Sur Aurel San, et il se trouve que j'avais dans ma ligne de mire Aurel San parce que c'était un personnage qui m'intriguait de parce qu'il était l'aventure déjà qu'il avait vécu et dont beaucoup de personnes étaient au courant. Et là j'ai rencontré Clément et coup de foudre artistique déjà. Et puis Clément, il est arrivé avec ses 2500 heures de rush. Il m'a dit, voilà, j'ai ça. Il y avait 17 téra de rush hein, quand même. Ouais. Et il m'a dit, j'ai ça et j'ai envie de faire un truc. Mais comment on fait?
Bah, ça allait être ma question. Comment vous avez fait? Vous lui avez filé une salle de montage? Vous lui avez filé un budget? Comment ça s'est passé techniquement, concrètement? Parce que c'est pas rien, une boîte de prod qui s'engage sur autant de temps et autant de matière.
Bah, c'est un peu le savoir-faire aussi de Media One. C'est-à-dire de faire confiance au talent et de se dire qu'à un moment donné, on est en capacité de mettre à leur service de l'argent pour qu'ils développent. Et ça a été le cas. Là. En gros, on lui a filé des salles de montage, il est venu la nuit dérocher ses images et puis on l'a accompagné aussi dans l'écriture pour qu'il croit en son projet, pour qu'il croit en lui. À la base, Clément, il est journaliste et donc il savait déjà écrire, il avait a priori pas besoin de nous, mais là c'était son frère, donc c'était un sujet un peu particulier.
Vous étiez à Canal, vous avez quitté votre boulot de Canal+, Clément? Vous étiez payé par Media One ou vous avez fait tout ça gratuitement en attendant la bonne fin? Comment ça s'est passé?
Non, au début, je pars un peu sans parachute, quoi. Je me dis, c'est le moment, ça fait 20 ans que je suis Aurel, il faut que je raconte cette histoire.
J'ai mal posé ma question,
pardon.
Parce que le temps presse. Okay. Quand on vous donne cette salle de montage, est-ce qu'en même temps, il y a un salaire ou est-ce que vous faites tout ça de manière... semi-amical?
Non, je suis parti tout seul au début, quoi. Je savais juste que j'avais mes images, quoi. C'était ma seule certitude.
On n'a pas explicité le titre, montre jamais ça à personne. Ça vient d'où? Ça veut dire quoi?
Montre jamais ça à personne. Donc, c'est une phrase qu'Aurel me prononce vers 2005. Voilà, il commence à se confier et il me menace parce qu'il est hyper pudique. Donc, il me dit, montre jamais ça à personne. Et on a gardé ce titre. On a mis beaucoup de temps à trouver ce titre avec les producteurs, notamment avec Aurel aussi, avec qui j'en discutais. Je trouvais ça, le paradoxe était intéressant parce qu'il me dit montre, donc il m'autorise, et à la fois il me dit montre jamais, donc on garde toute sa pudeur.
On est dans le sujet, autorise et montre jamais. Il y a un point aveugle dans votre documentaire, il y a un sujet dont Aurel San parle indéfiniment dans ses textes, que sont les filles. Or, il n'y a pas de filles dans ce documentaire. Ah, est-ce qu'il n'avait jamais de petite amie, ou est-ce qu'il était seul avec ses potes au quotidien, ou alors il y avait des petites amies? Et elles ont toutes été coupées au montage.
Non, il y a beaucoup de filles dans le documentaire, il y a beaucoup de femmes.
Bon,
il y a ma sœur, il y a mes deux grands-mères, il y a ma mère.
Vous avez très bien compris ce que
Olivier
je veux dire. D'abord, votre sœur, on la voit très, très peu.
D'amour.
Non, je voulais savoir si c'était des gens qui étaient en frustration. Ça existe beaucoup. La frustration sexuelle dans le rap, c'est le moteur de beaucoup de chansons, comme l'argent qu'on n'a pas.
C'est sûr.
Ou est-ce que par pudeur vous ne les filmiez pas, ou est-ce que vous les avez filmées et elles ne sont pas au montage? Pourquoi il n'y a pas de filles? Pardon de reposer la question.
C'est vrai que nous, c'était une bande de potes un peu paumés à Caen, en fait, c'est ce qu'on montre dans les premiers épisodes. Donc le plus intéressant, et de toute façon, moi je filmais vraiment ces mecs-là qui me fascinaient. En fait, j'avais même pas le concept de la vie à côté, en fait. Je voulais voir des mecs qui font du rap, en fait. Donc c'était vraiment ça que je filmais, on le voit au tout début. Et puis, on était des ados, post-ados, paumés à Caen, on n'était pas les plus, épanouis. Ouais.
Il n'avait pas de petite amie, ou il avait une petite amie, et elle n'est pas dans le film.
À l'époque, Il a eu plein d'histoires d'amour, évidemment.
Mais elles ne sont pas dans le film.
Mais
ça
c'était pas ce qui intéressait Clément.
Jamais c'était ça pas à ce personne. Et moi, ce qui m'intéresse, comme tout est montré, ce qui m'intéresse, c'est l'immontré. C'est justement ça qui est passionnant. Et il y a une séquence absolument incroyable, parce que je connais très très bien l'histoire d'Aurel San et une polémique. Et cette fois-ci, vous n'avez rien éludé. Et c'est une qualité essentielle de ce doc. Vous restez avec nous, Justine Planchon et Clément Cotentin. Culture Média continue.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Jamais ça à personne, série documentaire unique consacrée au rappeur Aurel San. C'est le meilleur démarrage sur Amazon Prime Video, c'est là où on peut l'avoir, les épisodes. Aurel San, c'est le grand frère d'Aurélien Cotentin qui est dans ce studio avec la productrice Justine Planchon. Vous filmez toutes les galères, vous filmez la carrière de votre frère pendant 20 ans, enfin comme il y a eu le montage, un petit peu moins de 20 ans parce que vous arrêtez à un moment donné de filmer pour pouvoir monter les galères, le premier concert sur le premier titre, il oublie d'allumer son micro, on le voit participer à une battle de rappeurs où il se fait rétamer devant toute la profession. C'est un moment absolument dingue et savoureux. Et je dois dire, immense qualité de ce doc, vous n'éludez pas les difficultés. Notamment une affaire qu'aurait pu lui coûter sa carrière, c'est l'affaire du titre Sale Pute. On est en 2009. Cette chanson raconte un cocu alcoolisé qui est quitté par sa petite amie, qui navigue entre les insultes et les pires représailles. Genre, t'es juste une truie, tu mérites ta place à l'abattoir. Pour ne citer qu'un exemple, les féministes s'étranglent, la presse s'empare de l'affaire, les JT également, même les hommes politiques à l'Assemblée. Et ce qui est formidable, c'est que vous montrez les choses, vous traitez même l'événement, la polémique et cette souffrance-là en longueur. Extrait.
Aurel San.
C'est d'une violence extrême.
L'affaire crée une grosse polémique.
Et là, je découvre ce que c'est qu'un tourbillon médiatique.
Voilà, cette chanson qui évoque un homme ivre, trompé par sa femme et qui souhaite la voir mourir.
Là, on s'est vraiment dit, wow, qu'est-ce qui se passe, quoi.
Ouais, tout d'un coup, il y a Claire Chazal qui est là, dans l'histoire.
Les paroles de l'une des chansons du rappeur français Aurel San peuvent-elles relever de la justice ?
Je percutais pas du tout en fait.
Qu'il menace de représailles jusqu'à la mort. La provocation à la violence est passible de 5 ans d'emprisonnement.
Dans toute cette confusion, mes grands-parents commencent à s'affoler.
Pépé, il me disait, mais pourquoi t'as fait ça ? Ça se fait pas en fait. Pour lui, c'était inconcevable quoi.
Tes grands-parents, ils croyaient qu'Aurel allait faire de la tôle.
Tu te dis, bah j'ai fait un monstre ou bien ?
Il y a des groupes féministes qui envoient des textes d'Aurel San à tout le monde, qui extraient les paroles de sale pute.
Je vais te mettre en cloche, sale pute, avorté à l'opinel.
Oui, c'est ta faute, t'étais jamais là.
Qui les sortent du contexte en disant qu'Aurel San prône la violence envers les femmes et des choses comme ça.
Tu te dis que c'est un malentendu un peu, tu vois.
J'avais du mal à comprendre pourquoi tout d'un coup ça a basculé dans un truc sérieux.
Alors vous montrez une séquence hallucinante, on voit que votre frère n'a pas pris encore la mesure de l'indignation. C'est avant un concert dans une ville de France, il y a un rassemblement de féministes pour faire interdire le concert. C'est l'après-midi, lui il est tranquille, tout sourire, et il vous dit « allez viens, je vais aller leur parler ».
Ben, en fait, c'est vraiment ça que j'ai voulu montrer dans le documentaire, c'est cette espèce de, Aurel le dit, hein, et à un moment il y a Claire Chazal qui arrive dans l'histoire. C'est vraiment ça, il y a deux univers qui se percutent, un assez innocent dans la création en fait, et l'autre du monde réel et de la réalité, c'est ça que j'ai essayé de montrer.
Mais comment ne percute-t-il pas qu'il va au-devant de difficultés majeures s'il était allé parler à ses féministes par exemple, et pourquoi l'entourage ne lui dit pas « arrête-toi, calme-toi », c'est ça qui est complètement dingue, et encore une fois, je le dis, vous n'avez pas coupé ces extraits-là.
Parce qu'on est dans une ère, je pense déjà pré-internet, ça c'est important, je pense que peut-être cette histoire est une des premières grosses polémiques. Aujourd'hui il y en a 5 par jour sur Twitter, et vraiment on est dans un autre monde, le monde d'avant presque, et c'est ça qui était intéressant aussi de montrer, et c'est pour ça qu'on a essayé de le montrer. On n'a pas essayé de refaire le fond théorique de l'affaire, mais plutôt de montrer voilà ce que c'est de l'intérieur, voilà ce que c'est pour un proche, et voilà ce que c'est aussi par rapport à la création d'un morceau, quoi. Comment est-ce qu'un morceau de fiction, un morceau d'art débarque dans la vraie vie, quoi.
Parce qu'il faut dire évidemment que c'est pas lui qui parle, mais c'est une fiction et qui mime quelqu'un, un cocu hystérique. Justine Planchon, en tant que productrice, vous aviez besoin que cet épisode soit dans le film et justement ne soit pas réduit à une toute petite citation.
Besoin, non. Mais en fait, quand je dis que Clément est journaliste et je savais à qui je m'adressais, c'est quelqu'un d'honnête, hyper loyal. Et donc le destin de son frère, il avait envie de le raconter de A à Z et de ne rien éluder. Parce que en fait, c'est son éthique journalistique qui parlait à ce moment-là. Donc j'étais en confiance absolue et on ne s'est pas posé une seule seconde la question de savoir si ça allait être ou pas. ça y était quoi qu'il arrive, bien sûr.
Et sa carrière a failli s'arrêter là. Ensuite, il a un petit peu grossi. Il le dit lui-même, il ressemble à Dora l'exploratrice. Non, mais il s'est passé plein de choses. Parce que le documentaire ne s'arrête pas là. Là, on n'est qu'à l'épisode 3. Ouais, mais exactement. Je ne pouvais pas tout raconter, je ne veux pas tout spoiler. Bah, mais il a vraiment failli exploser en vol.
Et ça pourrait faire vriller n'importe qui, effectivement. Et on n'est qu'à la moitié de la série à ce moment-là. Et derrière, ça qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a des échecs. Et il y a comment est-ce qu'on se remet de ces échecs, donc artistiquement, pour Aurel. Mais je pense qu'on peut trouver aussi des petites astuces pour n'importe qui a une carrière et qui a une vie, quoi.
Justine Planchon, la série est diffusée sur Amazon Prime. Une série aussi ambitieuse aurait-elle été possible, même finançable, sur une chaîne télé classique?
Alors, la question qui tue.
Vous êtes productrice.
Merci Philippe.
Je suis journaliste, vous êtes productrice, c'est la
vrai,
question.
C'est vrai. Écoutez, en fait, c'est un projet qu'on a présenté à différents diffuseurs. Il se trouve que Amazon a été le premier diffuseur à dire « Ok, je prends ».
Parce que c'est cher, on va dire les choses. C'est très cher, 2 ans de travail.
C'est 3 ans de production. Oui, c'est cher, bien sûr que c'est cher. Je pense qu'aujourd'hui, j'espère en tout cas qu'aujourd'hui, chaque diffuseur s'est posé la question de savoir si éventuellement cette série documentaire pouvait aller chez eux. Et à un moment donné, quand Amazon a dit « Ok, c'est nous qui prenons », etc., nous, on s'est pas posé la question, on s'est dit « Ok, c'est un super diffuseur ». C'était le premier contenu France qu'Amazon achetait. Donc c'était aussi pour nous une manière de s'engager auprès d'un acteur qu'on ne connaissait pas, et on trouvait le modèle un peu sexy, donc on y a été.
Et voilà. C'est aussi, si je puis me permettre, à la base, le côté série, 6 épisodes, des interviews, 2000 heures, enfin, c'est quelque chose qui est maintenant un produit fini, donc on sait que c'était comme ça, mais à la base, en fait, c'est de la confiance aveugle que me fait Media One, Nolita, Prime Video aussi, en disant, ok, d'accord, t'as fait ça pendant 20 ans, montre-nous, enfin, on va voir ce que ça va donner, mais c'est pas un cadre défini à la base, quoi, c'est un travail pour trouver la bonne formule, quoi.
Montre jamais ça à personne, c'est le titre, si vous êtes abonné à Amazon, montrez ça à vos potes. Merci beaucoup Clément Cotentin, vous êtes co-réal de cette série qui raconte Aurel San sur 20 ans. Merci beaucoup Justine Planchon de Media One. Merci d'avoir été avec nous en direct et d'avoir répondu à toutes les questions, sauf avoir donné le prix. Culture Média continue après le flash de 10h, les télescopages de Bruno Donnet. Aujourd'hui, il a retrouvé Marie-Ange, une candidate de L'Amour est dans le Pré qui est en très fâcheuse posture, me dit-il. Et puis notre invité, c'est la chanteuse Nolwenn Leroy qui nous présente en avant-première son nouvel album La Cavale et puis son rôle dans Capitaine Marlowe, ce sera vendredi. Et puis dans Les Indispensables, on va parler musique et dans Roman récompensé par le prix Fémina, l'humoriste et imitateur Marc-Antoine Lebray en fin d'émission. À tout de suite sur Europe 1.